I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, on est avec Nico, Guy, Boris. Salut.
Salut.
Salut, salut.
Salut.
Élections 3 avec au programme notre dossier du jour consacré à une initiative de Street Press, média indépendant sur Internet. Dans sa chronique aux urnes citoyens, Guy se demande si nous reverrons un jour la gauche majoritaire à Arras. Mais tout de suite, on se penche sur la question des élections communautaires. L'occasion de poursuivre ce qu'on avait commencé la semaine dernière en parlant du mode électoral. Histoire que ce magazine ne soit pas trop linéaire, Nico, tu nous proposes un format original puisqu'on va se lancer dans un quiz.
Alors, je sais pas si vous connaissez le jeu de société TTMC, tu te mets combien ? Hein, une sorte de Trivial poursuite un peu rigolo avec des questions numérotées de 1 facile à 10 très très difficile. Et donc je vous propose un TTMC élection communautaire. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêtes ?
Allons-y.
Les auditeurs, les auditrices, vous jouez avec nous ?
Je me mets.
Alors, première question. Les élections communautaires sont-elles A, des élections au cours desquelles on élit des personnes de la même communauté religieuse que nous, ou B, des élections au cours desquelles on élit nos conseillers communautaires ? Boris ?
C'est B.
Bien, Boris. Alors, deuxième question. Les conseillers communautaires sont-ils élus A, lors d'un scrutin indirect par un vote des conseillers municipaux, donc un peu comme un troisième tour des élections municipales, B, en même temps que les conseillers municipaux sur une liste qui figure sur le même bulletin de vote, ou C, est-ce qu'ils sont nominés par décision jupitérienne semi-divine ? Laura ?
La bonne réponse, c'est la B.
Bien, donc réponse B, depuis seulement 2014, les bulletins de vote dans ces communes comportent donc dans la partie gauche la liste des candidats au conseil municipal et dans la partie droite la liste des candidats au conseil communautaire. Et donc les candidats doivent figurer dans le même ordre que celui de la liste des candidats aux élections municipales et respecter l'alternance femmes-hommes. Troisième question. Alors, vous savez que les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, tout ça, ce sont des EPCI. Que veut dire EPCI ? Réponse A, établissement public à caractère industriel et commercial. B, établissement public de coopération intercommunale. Ou C, EPI proto-capillairement implanté.
Boris, il a choisi C.
Non, la B.
Bien, Boris. Alors, quatrième question. Dans un EPCI, donc vous avez compris, les communes membres, les villes, les villages, transfèrent un certain nombre de compétences. Quelles sont les compétences obligatoires concernant les communautés urbaines ? Vous pouvez en citer plusieurs. On va voir si vous avez quelques bonnes réponses. Oui, vas-y, Laura.
La gestion des déchets.
Ouais, ok.
Transport.
Transport, ouais, voirie.
Mobilité urbaine.
Transport urbain, ok.
Ben, le rafraîchissement des lieux publics.
Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est aménagement urbain, ouais,
c'est ça,
exactement, ouais, ok. Est-ce que vous en avez d'autres ?
Ben, y a beaucoup de choses, hein, mais ça, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je les avais notées dans un document, j'essaie de le retrouver.
On ne triche pas d'antisèche, Guy. Développement économique ?
Développement économique, oui, c'est
politique,
sûr.
Politique de la ville,
oui. Donc,
tout ce qui est quartier prioritaire, quartier populaire, voilà. Habitat, voirie, on l'a un petit peu dit. Environnement de manière générale, eau, assainissement.
L'eau.
Ouais. Voilà. Ouais. Il y a aussi la maîtrise d'énergie, lutte contre la nuisance sonore, lutte contre la pollution de l'air. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ok, on enchaîne avec la cinquième question. Alors, pour former... Donc, vous avez compris, c'est de plus en plus difficile. Pour former une communauté urbaine, je ne parle pas de communauté de communes ni de communauté d'agglomération ou de métropole. Pour former une communauté urbaine, il faut respecter un certain nombre de règles, et notamment un seuil de nombre d'habitants. Alors, combien d'habitants minimum faut-il pour prétendre à ce statut de communauté urbaine ? Réponse A, 42 621. Réponse B, 500 000 habitants. Ou réponse C, 250 000 habitants. Boris ?
Moi, je dirais réponse B.
500 000 ?
Non, moi, je dirais la A.
42 621 ?
Moi, je pense que c'est 250 000.
Bonne réponse de Guy, bravo. 42 621, c'est la population de la ville d'Arras. 500 000, c'était le seuil minimum avec la loi de 1999, mais ce seuil était abaissé en 2014 à 250 000 habitants. Et là, vous me direz, il n'y a pas 250 000 habitants dans la communauté urbaine d'Arras, on est d'accord. Il y a environ 110 000 habitants. Mais c'est parce que la CEA a été créée en 1998 officiellement, donc avant la loi de 1999. Et donc ce statut a bien pu lui être octroyé, donc largeois et malin.
Oui, il n'y avait pas de seuil à l'époque.
Exactement. Dernière question sur les EPCI. Alors, il y a 14 communautés urbaines en France. Est-ce que vous pouvez me citer ces 14 communautés urbaines? Vous avancez d'une case à chaque communauté urbaine que vous citez.
Lyon.
Non, c'est une métropole.
Ah, d'accord.
Attends, Lille, c'est une métropole.
Mais c'est récent, ça.
Actuellement, en France, il y a 14 communautés urbaines.
Et bien, bah, Lens.
Non, c'est non une communauté d'agglomération.
Ouais. Bordeaux.
Arras.
Non. Arras, un point pour Boris.
Ah bah ouais,
bien joué, bien joué, bien joué.
Ça compte,
si, si, ça compte dans les 14.
Dunkerque.
Oui, très bien, 2.
Donc Bordeaux, non.
Non.
Marseille.
Non.
En plus, c'est des, ah ouais,
c'est
grand,
des métropoles.
Là, c'est moyen. Angers.
Oui, 3.
Boulogne.
Non.
Non.
Nantes.
Non. Allez, encore.
Lorient.
Non plus. Il y avait Alençon. Donc Angers, ça a été dit, à Arras.
Brest.
Aubergenville, Besançon, Caen, Dunkerque, ça a été dit, Le Creusot, Le Havre, Le Mans, Limoges, Perpignan, Poitiers ou Reims. Alors, deuxième petit questionnaire. Donc, tu te mets combien, TTMC, en... Cette fois-ci, on va parler de la CUA. Alors, première question, facile. CUA signifie communisme unitaire arrageois, réponse A. Communauté humaine arrageoise avec une faute. Réponse B. Communauté urbaine arrageoise. Communauté urbaine d'Arras, plutôt. Réponse C.
Bah, c'est la réponse C. Ouais, hein.
Là, ça marche aussi.
Deuxième question. Quel est le siège de la CUA?
Le siège...
C'est le siège. Où siège la CUA, la communauté urbaine d'Arras?
La citadelle d'Arras.
Ouais. Bonne réponse. Anciennement, vous vous souvenez où c'était avant la citadelle d'Arras ou pas?
Bah, c'était pas au conseil département.
Non. C'était rue Frédéric de Georges. Oui. Donc à Arras, maintenant c'est la Voix du Nord qui occupe ses locaux en partie. Troisième question. Quel est, alors là peut-être ça va parler aux plus expérimentés d'entre nous. Quel était donc l'ancêtre de la communauté urbaine d'Arras? Donc juste avant, je ne vous parle pas du Moyen Âge. Qu'est-ce qu'il y avait avant la CUA?
Ah, tu nous fais pas de proposition?
Non, il n'y a pas de proposition.
C'était une aglo c'était pas une...
Ouais, conseil d'agglomération.
Non.
Il n'y avait pas le mot agglomération.
Non.
Non.
Pensez au football pour celles et ceux qui pensent qui s'intéressent au football amateur.
C'est district.
Le district urbain de la région d'Arras, créé en 1965, à l'initiative du député maire d'Arras, Guy Mollet. Alors attention, question 4, donc niveau 4, TTMC en CUA. Il y a 46 communes dans la CUA. Parmi la liste que je vais vous donner, 3 n'en font pas partie. Arras, Achicourt, New York, Ransart, Andécourt-les-Ransart, Duisans, Mareuil, Hénin-sur-Cogel.
Bon,
bah, New York
ok, ouais. Bonne réponse. Et
Andécourt-les-Ransart.
Andécourt-les-Ransart, très bonne réponse aussi.
Et Mareuil.
Non, Mareuil, ça en fait partie.
Ah ouais
vas-y, redis.
De quel nom, non?
Alors, j'ai Hénin-sur-Cogel, Mareuil, Duisans, Andécourt-les-Ransart.
Duisans, ouais.
C'est Duisans, bonne réponse. Effectivement, il y avait un petit piège, hein, parce que Ransart est dans la communauté urbaine d'Arras, mais pas Andécourt-les-Ransart. Mmh. Cinquième question.
Je ne sais même pas où c'est.
Le premier président de la CUA, ça a été le maire d'Arras, Jean-Marie von Leuenberg. Il a ensuite donc partagé ses pouvoirs. Donc, c'est Frédéric Le Turc qui lui a succédé en tant que maire d'Arras et Philippe Rapneau en tant que président de la communauté urbaine. Qui a succédé à sa mort à Philippe Rapneau, donc figure de la droite arrageoise, à la présidence de la CUA donc en 2018?
Le maire d'Achicourt de l'époque.
Comment il s'appelle?
Ouais.
Le maire d'Achicourt de l'époque.
C'est
donc
bien.
Le
c'est
maire
bien.
Actuel, c'est le maire. C'est une particularité locale à Achicourt. Mais ce n'est pas le maire. Comment il s'appelait le maire? Bon, bah, j'ai un trou. En tout cas, je sais que c'était le maire d'Achicourt.
Bonne réponse. En partie, en tout cas, c'était Pascal Lachambe,
voilà,
maire PS d'Achicourt, donc, qui a succédé à Philippe Rapneau à la présidence de la CUA de 2018 à 2020, avant que Frédéric Le Turc n'accède à cette fonction donc en 2020. Allez, sixième question, c'est la dernière. En 2008, il y a eu 2 candidats à la présidence de la CUA. Jean-Marie von Leuenberg, maire centre-droit d'Arras, et Jean-Pierre Delory, maire d'hiver gauche de Saint-Laurent-Blangy. À cette époque-là, le rapport de force au niveau de l'Arrajois, donc avec les communes alentours, est plutôt en faveur de la gauche. Et donc logiquement, Jean-Pierre Delery aurait pu, aurait dû être élu. Et pourtant, il a perdu d'une voix, 36 contre 37. Donc ma question c'est, quel socialiste n'a pas voté à gauche lors de cette élection ?
Antoine Détourné ?
Non.
Non, ça c'était en quelle année ?
En 2008.
En 2008, quel socialiste n'a pas... C'était un maire socialiste. C'était le maire d'Achicourt.
C'était une question piège, puisque le scrutin a eu lieu à bulletin secret, donc on ne saura jamais. Merci d'avoir participé. Alors, est-ce qu'en 2026, la CUA, donc traditionnellement une institution un peu neutre politiquement, pourrait basculer à gauche ? Bon, bah, c'est vraiment pas à l'heure du jour, semblerait-il.
Eh ben merci Nico pour ce quiz, je pense que j'en ai appris en même temps que les auditeurs, hein. Je me mets deux en TTMC élection municipale arrajoise. On continue notre magazine Élection avec Guy, alors pas de quiz de ton côté mais une chronique. Aujourd'hui, deux bulletins pour la même voix.
Reverrons-nous un jour la gauche majoritaire à Arras, se demandent les électrices et électeurs arrajois, dont le cœur bat à gauche. Bien sûr, il y a gauche et gauche, et celle qui a géré la préfecture du Pas-de-Calais pendant 50 ans, de 1945 à 1995, était clairement molettiste, inspirée par Guy Mollet, figure politique de la 4e République, qui a notamment été président du Conseil des ministres en 1956-57, maire d'Arras de 1945 à sa mort en 1975, Guy Mollet, dirigeant de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, puis du PS, Parti socialiste, se voyait reproché par ses détracteurs de gauche le décalage entre son discours radical et son action politique modérée, l'adjectif modéré étant parfois lui-même jugé particulièrement modéré. Il n'en reste pas moins que quand on a le cœur qui bat à gauche, on sait qu'il ne bat pas à droite. Et il y a toujours cet espoir de reconquête du beffroi. Rappelons qu'au deuxième tour des élections municipales de 1995, Léon Fatou, héritier politique de Guy Mollet et maire PS d'Arras depuis 1975, n'avait été battu que de 37 voix par Jean-Marie Van Leurenberg à la tête d'une liste de droite et de centre-droit soutenue alors par l'UDF et le RPR. Si Léon Fatou payait là son refus de s'ouvrir à la gauche écologiste, dont la liste avait obtenu 6,44% des voix au premier tour de ces élections de 1995, il s'était aussi confronté à une ville qui avait envie de changement tout en se complaisant dans son conservatisme modéré. Le mesuré Jean-Marie Van Leurenberg, qui pour la petite histoire avait été conseiller municipal de l'équipe Guy Mollet à la fin des années 60, mettra à profit cette victoire inespérée pour faire d'Arras une citadelle de centre-droit aujourd'hui tenue par Frédéric Le Turc, son fils spirituel. Mais revenons à la gauche à Arras. Après avoir été majoritaire durant 50 ans, à partir de 1945, elle s'est effectivement affaiblie fortement, passant de 47% des voix au premier tour des municipales en 1995 et 2001, à 43,5% en 2008, puis à 20,5% en 2014. Sans revenir au niveau de ses années de forte implantation, elle reprendra toutefois un peu de couleur avec 32% en 2020, toujours au premier tour des municipales. Qu'en sera-t-il en 2026 ? Nous en reparlerons bien sûr après le scrutin de mars prochain. Mais ce qui est d'ores et déjà annoncé, c'est que les électrices et électeurs de gauche auront le choix à Arras entre deux listes, voire trois, si Lutte ouvrière renouvelle sa candidature surprise de 2020. Je rappelle que se présenter au municipal à Arras, c'est déclarer une liste de 43 personnes, ce qui n'est jamais simple pour des organisations très, très minoritaires, pour ne pas dire groupusculaires. Deux listes de gauche, au moins donc, la première, le printemps arrajois regroupant les écologistes, PC, PS, Génération, L'Après, Debout, Place Publique, et la deuxième, Arras à gauche, soutenue par LFI. Si chacune de ces listes a sans doute de bonnes raisons de faire bande à part, qu'elle soit politique ou électorale, l'électeur de gauche a lui sans doute aussi de bonnes raisons de ne pas comprendre grand-chose à cette division. Et cela d'autant plus que très récemment, je pense aux dernières élections législatives, toutes ces organisations et leurs militants locaux étaient regroupés respectivement en 2002 dans la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et en 2024 dans le Nouveau Front Populaire, avec des résultats qui montrent que la ville d'Arras n'est pas acquise de fait à la droite. Je rappelle que la NUPES, avec 27,1% des voix, étalonnait les 27,6 du camp macroniste, arrivant en tête du premier tour en 2022, et que le NFP, Nouveau Front Populaire, en 2024, avec 26,2%, toujours pour la ville d'Arras, arrivait aussi en deuxième position du premier tour, mais cette fois derrière un RN en forte progression à 32,5%. Alors bien sûr, une élection municipale, ce n'est pas une législative, et surtout, le débat sur l'efficacité électorale d'une liste d'union ou de plusieurs listes au premier tour des municipales n'a jamais pu être tranché. On rameute plus large d'un côté, mais au risque de dispersion des voix, on se montre unis de l'autre au risque de perdre celles et ceux qui voient dans cette union de la compromission. Reste que celles et ceux qui espèrent le printemps à rajout à gauche auront du mal à trancher entre deux listes dont les programmes ne devraient pas présenter de divergences fondamentales et soient tentés de glisser dans l'urne une enveloppe avec un bulletin « Le printemps Arrajois » et un bulletin « Arras à gauche ». Bref, deux bulletins pour une même voix, mais une voix qui s'annule. Cette chronique ne se veut pas celle d'une défaite annoncée. Néanmoins, avec un maire sortant en position de force dans une ville qui se montre nettement moins sensible aux sirènes de l'extrême droite qu'une grande partie de notre département, la difficulté de choisir entre deux listes pour une partie de l'électorat sensible au discours écologique et social risque de constituer un frein à la reconquête du beffroi d'Arras par la gauche en 2026.
Président, résident de la République, le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Merci Guy Lepolarski. On retrouve maintenant le dossier de la semaine. Nico ?
Alors, on va vous parler de la bataille des municipales. On en a déjà parlé dans ce magazine Info 30. C'est le média indépendant sur Internet Street Press, connu, reconnu, notamment pour son travail d'investigation sur l'extrême droite en France, qui a lancé cette initiative. Il s'agit d'un travail d'information, de mobilisation et de formation face à la perspective de voir l'extrême droite conquérir des mairies aux prochaines élections municipales. On écoute, on réécoute un extrait de notre entretien par téléphone avec Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press.
La bataille des municipales, c'est un projet global avec un point de départ, c'est se dire quelle ville pourrait basculer à l'extrême droite à l'occasion des prochaines municipales. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait répondre concrètement à cette question. Et on a travaillé avec un chercheur qui s'appelle Alessio Motta, qui a développé une matrice qui essaye d'anticiper les tendances électorales. C'est pas ni Madame Irma une prédiction, ni du sondage, c'est des comportements, des tendances globales. Et notre objectif, c'est de faire mentir ce pronostic. Donc d'abord, on établit un pronostic. Ce pronostic, il est valable pour des villes au-dessus d'un certain nombre d'habitants, parce qu'en fait, sur les communes trop petites, il y a deux écueils qui nous empêchent d'avoir une réponse. D'abord, c'est que comme quand l'échantillon est trop petit, les tendances elles sont plus vraiment valables. C'est la première. Et la deuxième chose, c'est que dans les petites communes, les maires n'ont pas d'étiquette officielle. Ils sont rarement rattachés à un parti politique, ce qui rend compliqué le fait d'anticiper s'ils sont d'extrême droite ou pas. Il faut avoir une connaissance très précise du terrain et de l'individu pour pouvoir dire. Si le maire, par exemple, du village dans lequel j'ai grandi, moi, je suis capable de dire, de donner son orientation politique, mais vu d'un peu plus loin, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les communes d'un certain nombre d'habitants. Et ensuite, on a fait un indicateur, qui est un Nutri-Score, qui donne un risque de bascule. Rouge écarlate, c'est en fait des communes qui sont déjà à l'extrême droite et qu'on n'a quasiment aucune chance de faire rebasculer dans l'autre sens. Orange, c'est des villes où il y a un risque élevé. Ça ne veut pas dire qu'elles basculeront toutes, et on est à peu près sûr qu'elles ne basculeront pas toutes, fort heureusement, parce que moi, je suis assez clair sur mon point de vue sur le sujet. Je n'ai pas très envie de voir l'extrême droite au pouvoir. Et etc. jusqu'à vert, où le risque de bascule est très faible. Donc ça, c'est la première étape du projet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire, nous, médias indépendants engagés pour avoir un impact sur ce sujet. Parce que nous, on veut pas être juste des témoins neutres d'une histoire qui se passe, mais on veut avoir notre rôle à jouer tout en restant un média. Et donc, on a lancé plusieurs choses. D'abord, des formations gratuites sur l'extrême droite, parce qu'on pense que en informant les gens de ce qu'est vraiment l'extrême droite, eh ben, ça les dissuadera de voter pour cette extrême droite-là. Et puis, ça peut aussi donner des arguments à des gens qui vont convaincre autour d'eux de ne pas glisser un bulletin d'extrême droite dans l'urne. Donc, c'est des webinaires. Le premier s'est tenu la semaine dernière, justement avec Alessio Motta qui présentait cette carte. Il va y en avoir un autre dans les jours qui viennent. Et à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours, il y aura un rendez-vous gratuit en ligne avec des chercheurs, avec des journalistes, avec des militants qui vont nous former sur ce qu'est l'extrême droite dans toutes ses composantes, sur tout un tas de sujets, aussi le vote d'extrême droite, comment l'extrême droite se positionne sur l'écologie, sur l'éducation, sur la culture, etc. Et aussi comment on peut convaincre ou donner des arguments pour démonter ceux de l'extrême droite. Ça, c'est le premier volet. Il y a aussi des formations à destination des journalistes sur comment enquêter sur l'extrême droite. Des formations à destination des créateurs de contenu aussi, c'est un projet assez large. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est une interface où on met en relation des gens qui souhaiteraient se mobiliser sur le terrain contre l'extrême droite avec des associations partenaires qui font ce travail de mobilisation sur le terrain, justement.
Donc, il y a un gros, gros programme. Alors, en jetant un petit peu un œil à la carte hein, qui est sur le site de Street Press, hein, il y a donc un site qui est dédié vraiment à cette campagne, la bataille des municipales. Alors, j'ai regardé un petit peu dans le coin. Alors, nous, on est dans le Pas-de-Calais. Alors, Arras, ça va, est en vert. Mais autour, c'est très, très foncé. C'est très, très foncé. Et même parfois, des communes, bon, je vois, par exemple, à côté de nous, il y a une petite ville, Saint-Nicolas, qui est en orange. Beaurain est en orange. Ça se base aussi sur les résultats des dernières législatives, j'imagine. C'est pour ça que ces villes là sont en orange.
Ça se base sur les résultats des dernières législatives, mais pas uniquement, de différents scrutins ces dernières années. C'est-à-dire que le comportement des électeurs aux élections européennes, le comportement des électeurs aux législatives, le comportement des électeurs aux présidentielles nous donne un indicateur du réservoir de vote dont dispose l'extrême droite sur ces communes. Et ensuite, ce réservoir de vote, il est confronté à des scénarios, des hypothèses de candidature. C'est-à-dire que, avec un réservoir de vote donné, le résultat n'est pas le même si, comme offre de candidature, on a, 4 listes de gauche, une seule liste de droite et 2 listes d'extrême droite, ou à l'inverse, si on a une liste de gauche, 3 listes de droite et un candidat d'extrême droite. Donc la couleur, c'est la rencontre entre les comportements électoraux des habitants et des scénarios d'offres politiques qui sont présentés aux élections. Et bien sûr, on tient compte du fait que les gens ne votent pas de la même façon à des élections locales qu'à des élections nationales. Mais quand même, il y a un risque qui existe.
Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press. Alors, sur la carte des risques de victoire de l'extrême droite au municipal, donc Saint-Nicolas et Beaurain, j'en ai déjà parlé, sont en orange. Arras est en vert clair, avec comme légende, je cite, « Arras ne passera pas à l'extrême droite en 2026, sauf en cas d'erreur stratégique majeure des candidats et candidates des autres blocs », fin de citation. Par contre, on retrouve en rouge Hénin Beaumont, Bourré-Labussière, sans surprise. En orange, Lens, Carvin, Liévin, Boulogne-sur-Mer, Calais, qui font, je cite, partie des communes où le risque de passer à l'extrême droite en 2026 est significatif.
C'est la fin de ce magazine Élections, troisième numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier, suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes citoyennes. Salut!
Ciao.
Salut.